Mémoire pour demain, c'est une équipe.
Des enquêtrices de choc dans le vallon d'Ispagnac,
les gorges du Tarn et les falaises d'Écosse.
Sur les pas des habitants, elles questionnent leurs regards, leurs souvenirs, leur savoir-faire, leurs habitudes.
Vous mangez quoi au
vendange? Vous avez gardé les brebis avec vos grands-parents?
Qu'est-ce que vous chantiez au veillé?
Depuis que vous êtes revenu, qu'est-ce qui a changé?
Et les chanterelles, vous les cuisinez comment?
Qu'est-ce que vous chantiez au veillé?
Vous avez des photos des barques
de votre
papa? Et les
bonnes sœurs, qu'est-ce qu'elles vous enseignaient?
Vous avez des photos des barques
de votre papa? Qu'est-ce que vous chantiez au veillé?
Vous mangez quoi au vendange?
Qu'est-ce qui a changé?
Cette année, régulièrement,
vous pourrez suivre l'évolution de ces travaux
au gré de leurs rencontres et leurs recherches. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Me voilà au micro pour un troisième épisode des aventures de l'équipe de Mémoire pour demain. Donc pour rappel, on est une équipe de 5 enquêtrices-enquêteurs sur les traces de la mémoire des habitants du vallon d'Ispagnac, des gorges du Tarn et des rebords d'Écosse. Et voilà, on enquête sur leur savoir-faire, leur rapport à leur territoire qui les entoure. Avec Cécile, on avait présenté l'équipe et parlé de son thème, de l'eau, du Tarn. Et puis Monique, le mois dernier, nous parlait des processions religieuses et de l'histoire de Victoire d'Elran. Donc aujourd'hui, c'est à mon tour. Et moi, je vais vous parler de la vigne. C'est un sujet qui me passionne et il est vaste, et très très vaste. Alors ça fait un moment que je travaille dans la vigne. D'abord parce que j'y ai souvent fait les vendanges assez jeune dans ma région d'origine, le long de la Loire, où poussent beaucoup de cabernets et de chenins. Et puis j'ai aussi été ouvrière viticole et je me suis donc passionnée pour le sécateur et son tranchant. C'est une passion qui ne me quitte pas du tout. Et donc quand je suis arrivée en Lozère, il y a une douzaine d'années, je me suis dit que je ne pourrais plus faire ça parce que la vigne, il n'y en avait pas. Bon, c'était évidemment sans connaître tous les acteurs locaux qui œuvrent plus ou moins dans l'ombre et puis les deux vignerons qui étaient installés à Ispagnac. Peu de temps après mon arrivée, ça a été vite rectifié et je faisais la connaissance des vins de Treille, des réseaux souterrains de vinificateurs et vinificatrices amateurs. Et puis parallèlement, je rencontrais aussi Sylvain Gachet du domaine de Gabani, aux côtés duquel j'ai beaucoup appris et pu exercer quelques années tous les travaux de la vigne au fil des saisons. Donc en étant à Ispagnac, dans les vignes, dans le chai, au village, j'ai beaucoup appris en côtoyant les gens et en allant boire des cafés, en rencontrant du monde comme Jean-Louis Peyre, Olivier Fayet, Jean-Marie Rougeon et plein d'autres, autant de personnes qui m'ont parlé d'Ispagnac et de l'importance de la vigne dans les gorges du Tarn. J'ai encore beaucoup de gens à rencontrer, évidemment. C'est une histoire vraiment singulière que celle de l'installation des vignerons à Ispagnac qui a eu lieu au début des années 2000. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais moi, avant de m'y intéresser, je pense que c'est par Roger Lagrave et ses livres que j'avais été initiée un peu à cette histoire. Parce qu'à l'époque, c'est véritablement la commune qui avait pour maire François Brager, et puis notamment Francis Fayet, un adjoint, et d'autres, et puis les habitants, qui ont été déterminés à faire revivre le vignoble, en fait, sur Ispagnac, et puis qui voulaient aussi vraiment redessiner ces paysages de coteaux avec les vignes plantées. Et puis aussi, il y avait derrière un enjeu par rapport à la construction des coteaux qui, avec les habitats qui commençaient à manger de plus en plus toutes les terres agricoles. Donc il y a eu ce projet d'installer des vignerons qui a été super bien préparé en amont. Et puis ensuite, ils ont reçu des candidats. Et puis en 2003, il y a Sylvain Gachet qui s'est installé. Et puis ensuite, on suivi Elisabeth et Bertrand. Voilà pour cette histoire un peu récente. Et donc au début de ces années 2000, il y avait aussi certains habitants qui étaient sceptiques parce que la surface viticole reconquise, elle était minime par rapport à ce qu'elle était auparavant. Et puis, comment pouvoir vivre de la vigne de nos jours alors que cette culture, elle a disparu, que depuis les années 60-70, c'est beaucoup d'abandon et de friches. Il y a eu beaucoup d'exodes, sans compter les gels historiques, etc. Auparavant, la vigne, elle faisait partie d'un système autarcique, vivrier, d'autoconsommation. Chacun faisait son pinard. Et tous les coteaux étaient habillés de vignes. Il y avait des dizaines et des dizaines d'hectares. C'était un travail dur où on pâtissait, où on piochait cep par cep. Un travail qui était difficilement mécanisable, qui nécessitait beaucoup de main-d'œuvre. Et donc, on pouvait avoir des doutes quant à cette réintroduction de la vivre et surtout de pouvoir y vivre. Mais le pari a fonctionné et aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans. Et les vignerons vivent bel et bien de leur activité et on retrouve leurs bouteilles partout, dans les boutiques paysannes, dans les restaurants de Lozère et bien au-delà. Ils sont toujours dans le chai qu'ils ont pu investir et partager grâce à la mairie et qui se trouve sur la place de l'école à Espagnac. Bon voilà, ça c'est pour l'histoire récente, je vous ai un peu parlé de moi et d'Espagnac aujourd'hui. On va revenir un peu, faire un tour dans les mémoires. Alors j'évacue tout de suite le chapitre un peu sur les variétés, ce qu'on appelle les cépages interdits ou les variétés américaines, qu'on retrouve beaucoup dans les Cévennes et qui mériteraient une émission à part entière. Vous en avez forcément entendu parler, que vous ayez compris ou non de quoi il s'agisse. Voilà, on a tous vu les treilles, bu un coup sous une belle terrasse ombragée par les treilles. Voilà, elles sont apparues après l'arrivée du phylloxéra vers 1870. Et puis, après avoir été des sauveuses, on a voulu les arracher vers 1940. Bref, aujourd'hui, on en parle beaucoup et en fait, elles n'ont jamais été abandonnées. Voilà, toute cette histoire... Je vais pas trop en parler aujourd'hui. Donc on revient dans les gorges et on va y rester. On va entendre pas mal d'extraits sonores et comme on l'a déjà évoqué dans les autres émissions, en fait on a découvert un travail assez colossal qui est un travail ethnographique qui a été réalisé par Angeli en 2003. Et même sur les années qui ont suivi, elle a réalisé beaucoup d'entretiens avec les habitants des différentes zones autour d'ici et notamment la zone d'Espagnac et des Gorges du Tarn. Et tous ces entretiens et son analyse, ça a pu vraiment nous servir de matériau de départ. Ça nous permet aussi, quand on écoute ces entretiens que vous allez entendre, de faire un bond dans le temps, parce que même si ces entretiens datent de 2003, bah, ça fait déjà plus de 20 ans et ça permet de nous remettre dans un autre contexte et de voir comment il a évolué. Alors si par exemple on s'intéresse aux cépages qui étaient présents à Espagnac et dans les gorges, en fait ça a beaucoup évolué. Il y avait des cépages autochtones. Aujourd'hui on utiliserait ce terme-là. Et... c'est des cépages qui sont présents dans la région ou qui étaient présents parce qu'ils ont disparu depuis longtemps et qui étaient adaptés au territoire. Et puis comme toujours, il y a des évolutions climatiques, humaines, etc. qui font que ça change. Alors il y a évidemment le phylloxéra qui a fait que ça a changé. Petite parenthèse, donc le phylloxéra, c'est un puceron qui nous est arrivé des États-Unis, qui va sucer comme ça les racines de la vigne et la vider entièrement de sa sève. Et ce puceron, quand il est arrivé en Europe, il a décimé tout le vignoble, donc on est vers 1870-1880. Et à ce moment-là, ça a changé complètement le paysage viticole, il a fallu... Tout replanter, tout rebattre les cartes. Je rentre pas plus en détail non plus. Donc la Lozère aussi, elle a été touchée par le phylloxéra. Mais j'aimerais qu'on s'intéresse à un autre type de changement. C'est celui qu'on peut appeler de la transhumance des hommes. Il est propre plutôt aux régions pauvres. En fait, c'est des déplacements saisonniers qui avait lieu et qui suivait un calendrier bien spécifique. Et donc, pour les vendanges, c'est un témoignage qu'on retrouve souvent, en fait. Constituer une équipe, qu'on appelait une colle, et puis partir dans l'Hérault ou dans le Gard pour quelques semaines. On faisait aussi pareil avec la châtaigne, aussi parfois pour les olives. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de témoignages qui convergent vers ce fait. C'était vraiment courant d'aller faire les vendanges plus au sud pendant quelques semaines. Et on va écouter un premier extrait de Jean Rocoplan. Alors celui-ci, c'est un extrait qui date de l'an dernier que j'ai enregistré. Jean Rocoplan qui habite à Prades.
Moi, je me rappelle, il y a eu de la Ramon. La Ramon, donc vous savez que ils allaient, les gens d'ici, ils allaient vendanger dans le midi. Hein, ils partaient en groupe, ils allaient vendanger dans le midi. Ils se sont aperçus que là-bas, dans le midi, il y avait justement cette variété la Ramon qui donnait des sauts de raisins par cèpe. Donc c'était super. Donc ils se sont dit, mais nous, attends, avec nos variétés de raisins dans des gorges, là-haut, c'est pas rentable. Donc ils ont pris des variétés de Ramon. Mais seulement, ici, ça mûrit pas. Donc le vin n'était pas bon, et même des paysans du coin, ils ne les voulaient pas. Quoi.
Voilà, donc des variétés ont été ramenées de là-bas, des boutures, parce que les raisins donnaient beaucoup, des seaux entiers qui se remplissaient très vite. On a donc voulu rapatrier ces variétés miracles pour faire enfin du rendement en Lozère. Mais voilà, c'était bien sûr sans prendre en compte les différences de climat, d'altitude, d'exposition, etc. Je pense que vous avez compris, mais on écoute un deuxième extrait, parce que là, c'est Monsieur Paulet, à l'époque, en 2003, qui explique très bien ce phénomène.
Qu'est-ce que vous aviez comme variété de raisins ?
Oh, dans le temps, on avait des variétés excellentes. Et puis après, les gens se sont mis à les vendanger dans le midi. Ils ont remonté des variétés qui faisaient beaucoup plus de...
Plus productives,
voilà,
mais
oui.
Moins bien adaptées.
Oui, mais c'est qu'elles faisaient moins du vin. Alors, il y avait du grenoir, il y avait de l'alican, il y avait du gamay perfectionné, de la Ramon. C'était du vin qui n'était pas mauvais à boire, mais enfin, il n'avait pas de degré.
Ah oui.
Il n'avait pas tellement de degrés. Tandis qu'avant, il y a 100 ans de ça, ils avaient des espèces adaptées au pays à ce moment-là, et ils faisaient du vin bien meilleur.
Ah oui, et qu'est-ce que c'était comme espèce ?
Il y avait du petit gamay, il y avait comment ça s'appelait, du négret, il y avait je ne me rappelle plus des variétés qu'il y avait maintenant.
Et le vin était meilleur.
Ah oui, il n'y avait pas de comparaison.
Ah oui. Parce que moi, je pensais que justement, on avait changé parce que pour améliorer, quoi.
Ah, mais maintenant, ils reforment maintenant les espèces qu'ils avaient dans le temps. Mais,
oui.
Mais maintenant, il n'y a plus de vignes.
Mais je pensais que le changement s'était opéré parce que le vin n'était pas très bon. Et
voilà,
que
oui.
C'est l'inverse.
Ouais. Là, c'est le contraire.
C'est le contraire. C'était pour faire plus de rendement.
Oui.
Voilà.
Voilà, donc là, Monsieur Paulet nous éclaire un peu, parce que des fois, on est un peu perdu. Et puis aussi, il n'y a pas une histoire, il y a plein d'histoires par rapport au vin. Et les divergences un peu de jugement sur la qualité du vin, c'est quelque chose qu'on peut beaucoup entendre, parce que on peut entendre par exemple que le vin était imbuvable, que c'était de la piquette. Et puis à l'inverse, il y a aussi beaucoup de personnes qui me louaient la qualité du vin, qui était vraiment très bon. Et puis on parle des cépages résistants, on parle des vieux cépages, on parle des nouveaux. Donc c'est assez complexe, mais en tout cas, grâce à ces extraits, voilà, on comprend qu'en tout cas, avant, il y avait des variétés autochtones, et puis que avant l'arrivée actuellement, par exemple, de ce qui a été replanté dans les années 2000, de la Syrah, du Pinot, du Chardonnay, il y a eu voilà toute une vague de replantations un peu faite par les hommes eux-mêmes, voilà, par rapport à la nécessité de vouloir produire plus, et qui a été un peu fait de manière désorganisée et pas forcément pertinente. Ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, là, dans l'extrait, on entend qu'il nous parle du négret. Eh bien, le négret de la Canourgue a été replanté, par exemple, à Ispagnac. Et on est en train d'essayer, voilà, de le faire inscrire au catalogue des variétés pour le revaloriser à nouveau, quoi. Donc, si on revient un peu sur les déplacements dont je parlais, des hommes qui se déplaçaient pour la main-d'œuvre. D'ailleurs, j'ai aussi eu des témoignages de femmes qui partaient vendanger. C'était pas du tout rare. On peut aussi parler des déplacements un peu plus proches qui avaient lieu sur le terrain donc qu'on étudie entre les gorges et le Causs. Et qui avait lieu pour différents échanges. Alors, on peut écouter un premier extrait de Roger Bouty qui date aussi de 2003. Je précise que tous ces entretiens qu'on vous fait entendre d'Angélie, c'est avec l'accord du parc et des foyers ruraux qui, à l'époque, avaient commandé cette étude. Donc là, on écoute un extrait de Roger Bouty.
Et il y avait des changes qui se faisaient également, surtout dans les coins comme Saint-Denis, les coins du centre des gorges, où on ne pouvait pas en blaver. Et ici, ils ne pouvaient pas récolter du blé. Alors les gens cultivaient la vigne et ils échangeaient le vin avec les paysans du Causs contre du blé. Blé ou céréales, parce que ça pouvait être aussi de l'orge ou d'autres, ou de l'avoine éventuellement. Mais enfin, ils échangeaient avec les paysans du Causs.
Et puis, si on écoute Louis Moline, alors Louis Moline qui est décédé, ça date d'un entretien de l'an dernier que j'ai enregistré. Et lui, il nous parle aussi d'un autre type d'échange avec le Causs.
Et puis, vous mettiez tout ensemble pour faire le vin ?
Oui, dans une cuve, on foulait des raisins. On les laissait 8 ou 10 jours, puis on soutirait le vin.
Il était bon, le vin ?
Le nôtre, oui.
Le vôtre était bon ?
Le principal, il fallait avoir des bons tonneaux.
Ah.
Qu'il fallait entretenir. Bien les laver, les souffrir. Si vous mettez du vin dans des tonneaux qui ne sont pas bons, au bout de quelques temps, il va plus. Tandis que là, nous, mon père s'en occupait bien de ça. Il était bon.
Ça faisait combien de tonneaux ?
On en a eu fait jusqu'à 30 hectares.
Donc vous en vendiez beaucoup ?
On en vendait un peu. On échangeait avec du fumier.
Ah, avec qui alors ?
Avec les gens du Causs.
Il fallait qu'on... Combien de litres de vin contre quel poids de fumier ? Vous vous rappelez ?
Un voyage de fumier avec 100 litres de vin.
Voilà, j'aime beaucoup cette voix. Voilà, donc ça pouvait, voilà aussi, il y a plusieurs personnes dans les entretiens, voilà, qui racontent ces tonneaux qui montent, parce qu'évidemment, moi je croyais que c'était en bouteille qu'on montait le vin, absolument pas, personne ne mettait le vin en bouteille, donc c'était des tonneaux qu'on montait en charrette sur le Causs et qu'on échangeait, voilà, avec le fumier ou le blé. On a entendu ici Louis Moline qui nous parle de la vinification. Ça aussi, c'est un sujet à part entière. Comme je vous disais dans l'intro, ce sujet, il est passionnant et il est très, très vaste. Donc, on ne va pas rentrer plus en détail dans la vinification. Je vais rester sur un peu dresser ce paysage à Ispagnac. Et on y reviendra plus tard. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que beaucoup de témoins nous parlent de ces 8-10 jours de fermentation et puis aussi surtout de l'importance de l'hygiène des tonneaux en cave. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Alors à Ispagnac, eh ben, avec les raisins, il n'y avait pas que le vin. Il y avait aussi le raisin de table. Et puis l'agnole, l'alcool, c'était deux productions aussi qui étaient importantes autour du raisin. Alors je vous propose d'écouter deux extraits à nouveau, on revoyage en 2003. Il y a d'abord Gisèle Belard qui va nous parler du raisin de table, et puis ensuite Yvette Assier qui nous parlera des alambics.
Là, le mois de septembre, c'était la cueillette des raisins. Et je me rappelle que nous allions cueillir sur les coteaux le raisin blanc qu'on emballait et qu'il fallait être très... très habile pour ne pas laisser un grain de raisin un peu pourri, tout ça, on y prenait soin et nous vendions ces raisins. Je ne sais où ils partaient, amandes peut-être. Alors on avait le raisin blanc et le yad. Ça c'était déjà un petit apport pour nos familles. Ensuite il y avait les vendanges et ça c'était la journée de joie parce que c'était les la famille se retrouvait, les voisins et nous partions pour la journée et ramasser le raisin. Et puis, c'est ce qui comptait, c'était un bon repas le soir, qui était un peu un repas de fête. Et on aimait bien, ça durait une quinzaine de jours, parce que comme on allait chez les voisins ou chez nos cousins et on se rendait le temps. Ça, le temps, on s'est changé. Tu venais un jour, je te rendais cette journée, quoi.
Il y en avait partout. Ah,
ici, il y avait.
Puis il y en avait plusieurs.
Deux alambics importants à Hispaniac à l'époque. Alors là aussi, il y en aurait pour. Là, on distillait. Là, c'était. Ça aussi, c'était quelque chose. Hein.
Qui est-ce qui les avait, ces alambics ?
À la placette, c'était M. Boutonnet, et celui de la place, je ne me rappelle pas qui c'était à l'époque. Mais la placette, c'était M. Boutonnet.
Et chacun apportait...
Et alors, pareil, chacun avait l'habitude de porter sa drache, qu'on appelait, chez un tel. Nous, on la portait toujours là-haut, à la placette, chez M. Boutonnet, qu'on surnomme Mérambal. Et qui avait sa cabanette faite en planche, couverte et tout, des alambics magnifiques en cuivre. Et puis sous la cabanette, en planche, il y avait les bains où s'asseyaient les voisins en attendant que l'alambic, que l'eau de vie coule. La veillée, ils étaient bien au chaud, et puis en même temps, ils goûtaient l'alambic quand ils sortaient. Et au fond, il y avait une petite table où il y avait ses papiers, il y avait deux ou trois verres dessus pour la goûter. Il y avait toujours du monde.
Voilà pour ce dernier extrait qui nous fait voyager et qui conclut de nous convaincre de l'importance de la vigne dans les gorges du Tarn. Et qui est, même si elle a évolué, toujours là aujourd'hui. Voilà, ce qui me plaît avec ce sujet, c'est que je peux vraiment le mettre en perspective dans le temps, parce que c'est tellement riche tout le passé et le présent autour de la vigne à Hispaniac et dans les gorges, que je vais vraiment pouvoir continuer à vous faire découvrir ce thème sous plein de regards différents. Et puis encore aujourd'hui, ça change, hein. Même en 2024, là il y a des nouveaux vignerons qui s'installent, et puis avec les changements climatiques, les nouveaux cépages, les nouvelles variétés, il y a encore plein d'épisodes à venir. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que prochainement, je pourrais vous faire entendre un travail sonore sur lequel je bosse. Alors, prochainement, on va dire cette année. Parce que grâce à toutes ces rencontres que je fais et tous ces entretiens autour de la vigne, j'ai pu rencontrer Bob Lager, qui vit à Hispaniac, et qui m'a prêté le livre de cave de son grand-père, Robert Lager. Et donc j'ai pu avoir entre les mains ce livre des cultures qui est vraiment génial et où est détaillé année après année toute la météo de chaque vendange, comment étaient constituées les équipes, qu'est-ce qu'ils ont mangé à midi, le menu du soir, l'ambiance, et c'est vraiment passionnant. Et donc je vais travailler à la lecture de ces textes par moi et par d'autres personnes, et puis faire un espèce de montage comme ça qui va nous faire voyager spécialement dans les menus de vendange, parce que voilà, moi aussi, en faisant les vendanges chaque année ici, c'est quelque chose qui reste très central et qui parle beaucoup, parce que bah, les vendanges, c'est un moment très joyeux, très festif, et c'est aussi toute une gestion, toute une organisation. Bref, ça pourrait paraître être un petit détail comme ça, mais c'est un sujet voilà, que je vous ferai découvrir. Et puis évidemment, ce projet, il est porté par le foyer rural des Petits Cailloux, et qui nous porte et qui est super. Et puis c'est financé par la conférence des financeurs pour la prévention de la perte d'autonomie, voilà, le département, et voilà, qui nous donne des sous pour pouvoir un petit peu financer tout ça. Donc je les remercie ici, et puis je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures le mois prochain. Ça devrait être Sophie avec peut-être les champignons, ou qui sait, ça sera les Petits Cailloux, je sais pas trop, on verra. Belle journée, à bientôt. Mémoire pour demain, c'est une équipe.
Des enquêtrices de choc dans le vallon d'Ispagnac,
les gorges du Tarn et les falaises d'Écosse.
Sur les pas des habitants, elles questionnent leurs regards, leurs souvenirs, leur savoir-faire, leurs habitudes.
Vous mangez quoi
vous avez gardé les brebis avec vos grands-parents?
Qu'est-ce que vous chantiez au veillé?
Depuis que vous êtes revenu, qu'est-ce qui a changé?
Et les chanterelles, vous les cuisinez comment?
Qu'est-ce que vous chantiez au veillé?
Vous avez des photos des barques
de votre
papa?
Qu'est-ce qu'elles vous enseignaient?
Vous avez des photos des barques
qu'est-ce
de votre
que vous
papa?
Chantiez au veillé?
Vous mangez quoi au vendange?
Qu'est-ce qui a changé?
Cette année, régulièrement,
vous pourrez suivre l'évolution de ces travaux
au gré de leurs rencontres et leurs recherches.